Euradio présente Enquête d'Europe.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Euradio pour un nouvel épisode du format Enquête d'Europe, animé par les étudiants du Master 2 Sciences Politiques de l'Europe de Nantes Université. Aujourd'hui, Maëlys et moi-même allons vous parler d'un sujet qui nous est familier en tant qu'étudiantes, la santé mentale dans les études supérieures. Plusieurs enquêtes françaises réalisées au cours des dernières années montrent que le constat est alarmant. Selon une enquête de l'INSERM de 2021, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, les étudiants français sont plus touchés par les problèmes de santé mentale. En effet, 37% des étudiants déclarent des symptômes dépressifs, 28% des symptômes d'anxiété et près de 13% ont rapporté des pensées suicidaires. Il faut ajouter à cela un autre chiffre inquiétant mis en lumière par une enquête de l'Institut CSA qui est arrivée à la triste conclusion que 70% des étudiants s'estimaient être en situation de mal-être.
Merci Chloé. Effectivement, bien qu'existant, le sujet a été largement mis en lumière lors de la crise du Covid-19, lorsque les universités françaises ont été fermées et que les étudiants ont été confinés et obligés à suivre leurs cours à distance, coupés de liens sociaux avec leurs camarades et leurs professeurs. Durant cette période, un mal-être de la communauté étudiante s'est exprimé et a démontré la nécessité de développer un système d'offre de soins dans le cadre de l'enseignement supérieur français. À l'instar de ce cas français, qu'en est-il de la situation dans d'autres universités européennes ? Au niveau supranational, le sujet émerge au sein des institutions. Pour illustrer, le Parlement européen a suggéré que l'année 2023 soit celle de l'année européenne de la bonne santé mentale. La Commission européenne a elle aussi mis à l'agenda cette problématique pour un début des travaux en juillet 2023.
Désormais conscientisée, la santé mentale des étudiants reste aujourd'hui une question présente dans le débat public et cruciale pour une population dite vulnérable. Répondant à différents enjeux de compréhension, mais aussi différentes lacunes quant à sa mesure, nous sommes accompagnés pour cette émission de deux intervenants afin de nous aider à faire un tour d'horizon de cette problématique. Ainsi, nous sommes en compagnie de Cécile Kindelberger, enseignante-chercheuse en psychologie à Nantes Université et notamment l'une des encadrantes d'un colloque sur la santé mentale en collaboration avec d'autres universités européennes. Nous sommes également en compagnie de Louis Soutrel, représentant de l'antenne Pays de la Loire de l'association Nightline, œuvrant directement pour la santé mentale des étudiants via un service d'écoute pour les jeunes et par les jeunes. Et merci à vous deux pour votre présence.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Enquête d'Europe.
Alors, pour cette première question, nous nous demandions de quoi est-ce que nous parlions concrètement lorsqu'on aborde la santé mentale et le mal-être étudiant. Comment est-ce qu'on les circonscrit? Quelles en sont les raisons? Mais aussi, comment ils se manifestent?
En tant qu'ancienne chercheuse en psychologie, effectivement, la santé mentale, ça reste un gros sujet. Pour la question du bien-être, c'est essentiellement basé sur des mesures, en fait, des émotions positives et négatives, en fait, avec une recherche un petit peu de la balance de ces deux grandes émotions qui structurent l'être humain. Et effectivement, on pourrait dire que dans la balance, quand il y a plus d'émotions positives, on va vers du bien-être, puis quand il y a beaucoup d'émotions négatives, on va vers du mal-être. Après, le mal-être, c'est effectivement quelque chose qui peut être assez présent chez les étudiants, qui n'est pas forcément ce qu'on appelle les troubles intériorisés, dont vous avez parlé, hein, dépression, anxiété, qui là vont signaler effectivement un niveau très faible de bien-être et qui relève en fait de troubles psychopathologiques.
Oui, tout à fait. Nous, c'est ce qu'on voit à Nightline. Donc Nightline, qui est une association et qui a été créée en 2016 par et pour des étudiants. Et on essaye d'améliorer la santé mentale des étudiants en France. On le fait à travers différentes actions et notamment en proposant un service d'écoute nocturne qui est ouvert tous les soirs de 21h à 2h30 du matin. Et ce qu'on constate régulièrement dans les appels que l'on a avec les étudiants, c'est en effet des situations de mal-être, alors qui sont liées à beaucoup de raisons, notamment des situations de solitude, d'anxiété, de stress par rapport aux études, des problèmes relationnels en lien avec la famille, les amis, avec les relations de couple également. Et donc derrière cette expression de mal-être qui désigne quelque chose de la situation actuelle et passée aussi, parce que comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est une situation qui existait déjà avant la crise du coronavirus. On a plusieurs réalités que rencontrent les étudiants et nous, on essaye de pouvoir répondre à leurs besoins à travers une écoute active.
Au vu des premiers éléments que vous avez apportés, on voit bien que c'est une question qui est assez complexe dans sa réalité. Et finalement, on se disait que c'était quand même un problème qui était difficile à quantifier. Est-ce qu'il n'existerait pas une sorte de chiffre noir dans ce cas-là de la santé mentale des étudiants, dans le sens où c'est peut-être difficile pour les étudiants de se manifester, d'aller consulter auprès des médecins, de prendre l'initiative et de eux-mêmes prendre conscience qu'ils sont atteints de ces troubles-là?
Alors, chiffre noir, je ne sais pas trop, parce que c'est vrai qu'en, enfin, c'est une bonne question dans le sens où c'est des choses qui sont... On appelle ça trouble intériorisé quand c'est une version psychopathologique, parce que ça ne se voit pas, en fait, effectivement. Est-ce que les jeunes en ont conscience? Peut-être qu'ils en prennent mieux conscience qu'à une époque. C'est aussi pour ça que, comme vous le releviez, il y a une sorte d'explosion des troubles intériorisés et qui, à ma connaissance, touche effectivement pas que l'Europe, hein, puisque aux États-Unis, on voit... Ils ont un système, en fait, d'études nationales qui montre que sur les 20 dernières années, il y a eu une explosion des troubles intériorisés, d'ailleurs qui relève de différents facteurs. Je pense à une auteure qui, elle, pointe beaucoup la question de l'augmentation des réseaux sociaux et de cette virtualisation des interactions sociales qui peut être aussi un problème parmi d'autres facteurs dont a parlé Louis. Donc c'est effectivement un phénomène assez complexe. Je pense que les jeunes ont mieux conscience, mais peut-être qu'ils, enfin, nous, ce qu'on a trouvé dans notre étude, en partie, c'est qu'ils ne savent pas forcément vers qui se tourner. À ce niveau-là, on a par exemple au sein de l'Université de Nantes un système de services pour la santé mentale qui est très mal connu, qui est mieux connu des étudiants en santé et des étudiants en sciences humaines, qui est moins connu effectivement peut-être parce que c'est une question aussi de proximité géographique. Hein, je pense sur les IUT qui sont un petit peu délocalisés, sachant que le service universitaire il est plus proche du campus humanité et droit. Et en même temps, on voit bien que voilà, il y a d'autres moyens effectivement d'avoir recours à la santé mentale, enfin de soins ou en tout cas d'accompagnement qui sont très méconnus en fait des étudiants.
Je vous rejoins tout à fait. Ce qu'on constate en s'appuyant sur un certain nombre d'études, c'est qu'il y a très peu d'étudiants en fait qui connaissent les structures de prise en charge psychologique. Par exemple, le service de santé universitaire, alors là qui a été renommé récemment le service de santé étudiant, les BAPU également. Et finalement, à Netland, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'être ce service d'écoute, mais aussi d'être un service d'information. Et d'ailleurs, parfois, on a ces étudiants qui nous contactent pour nous dire, bah voilà, je souhaite consulter un psychologue, mais je sais pas vers qui me tourner, dans quelle structure aller, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant. Donc à ce moment-là, les bénévoles peuvent orienter, faire des recherches avec l'étudiant qui en demande.
Nous allons donc passer par un angle plus européen en fait sur la question. Pour illustrer, on a des pays comme la Belgique qui ont réussi à mettre en place de grandes politiques de réponse à la dégradation de la santé mentale, qui est notamment bénéficiable à l'ensemble de la population étudiante. Donc Madame Kindelberger, vous en parliez, vous avez participé avec des étudiants à un colloque sur la santé mentale en collaboration avec l'ensemble des universités membres du réseau qu'on appelle UniWell. Donc en partenariat avec des universités comme celle de Birmingham, Florence ou Cologne, pour citer celle-ci, l'un des objectifs principaux était de mener une étude à l'échelle européenne. Ainsi, quels résultats avez-vous obtenus et quelles conclusions vous en tirez?
Alors, au niveau des résultats, effectivement, c'est une recherche qui a été menée auprès de 5 ou 6 universités européennes. Et ce qui apparaît, donc, quand on a fait un petit peu les comparaisons internationales, c'est que nos étudiants français, nantais en tout cas, hein, puisque c'est l'université de Nantes, présentent un niveau moindre de bien-être que les autres universités européennes. Alors après, ce chiffre, pour moi, il reste à prendre avec précaution. Parce qu'on n'a pas utilisé exactement la même méthodologie. Nous, par exemple, on a opté pour un questionnaire en ligne, ce qui fait qu'on a un grand panel d'environ 2200 étudiants et plus étudiantes, je devrais dire, parce qu'on a beaucoup de répondantes, beaucoup plus que de répondants. Et d'autres universités ont opté pour des passages en amphithéâtre, par exemple. Donc c'est forcément, nous, ça supposait d'avoir envie de passer du temps devant son ordi pour répondre effectivement à toutes ces questions, sachant que le questionnaire était un petit peu long. Là où d'autres, effectivement, on est allé les chercher. Aussi, hein, ce qui amène à un petit peu à modérer cette comparaison qui a été faite, c'est le fait que nous, on avait 2200 étudiants, ce qui est, même si l'échantillon est un petit peu plus féminin, assez représentatif, d'autres universités ont à peine une centaine d'étudiants. Donc voilà, nous, on a toute filière. Eux, éventuellement, par exemple, l'université qui était chef de projet, entre guillemets, c'était l'université de Semmelweis en Hongrie. C'était une recherche pour les étudiants, par les étudiants, en fait. Hein. C'est pour ça que ce projet a été crédité. Cette université a aussi opté pour une étude beaucoup plus proche de certains étudiants, plutôt sur le pôle santé, par exemple. Sachant que nous, dans notre étude, on se rend compte que nos étudiants en santé ont un niveau de bien-être plus élevé, significativement plus élevé que les autres étudiants des filières type humanité, droit ou sciences et technologies. Vous aviez une autre question, je crois, plutôt sur ce qui allait être fait après. Après, c'était effectivement aussi un symposium un petit peu pour échanger justement sur les différentes manières dont la santé mentale était appréhendée, hein, au niveau européen. Donc c'est vrai que nous, on a un système universitaire, par exemple, d'accueil, effectivement, dont parlait Louis. Dans d'autres universités européennes, il y a un système aussi qui est mis en place avec un service qui est proposé par des étudiants en master de psychologie qui vont donc devenir psychologues, et donc un petit peu un service pareil d'étudiants pour les étudiants, mais effectivement avec une approche thérapeutique en tout cas. Donc voilà, donc l'idée c'était aussi, il y avait, dans ce projet, il y avait aussi l'idée de, par exemple, de développer des clubs. On sait que le sport, et on l'a retrouvé nous, c'est corrélé au bien-être, hein, on ne sait pas dans quel sens ça va. Peut-être que quand on est plus déprimé aussi, on a moins tendance à faire de sport, donc c'est, ça reste un lien. Mais voilà, en tout cas, mettre en place du sport, on a au sein de l'Université de Nantes, on a un étudiant de psycho qui a créé une association pour promouvoir le bien-être, fait d'échanges aussi d'ailleurs sur comment ça fonctionne l'université, comment pas rester en lien. Enfin, Louis disait ce qu'on a retrouvé aussi dans notre étude, hein, il y a des facteurs sociaux en fait. Par exemple, ce qui a été pointé nous dans notre étude, c'est que les étudiants qui se sont retrouvés isolés, seuls, qui étaient par exemple en colocation et qui, parce que le colocataire est retourné chez ses parents, s'est retrouvé seul, a ressenti effectivement plus de mal-être et plus de difficultés. Donc tout ça s'est pointé. Après, l'idée d'ailleurs dans UniWell, c'est de continuer à promouvoir justement des associations étudiantes qui vont chercher à accompagner les étudiants, faire des clubs en fait, que ce soit des... En tout cas, pour promouvoir les échanges et les interactions sociales.
Monsieur Soutrel, vous souhaitiez préciser quelque chose ou rajouter?
Oui, alors peut-être de dire effectivement l'importance d'avoir des projets qui se fassent sur le plan local, là comme à l'Université de Nantes, mais aussi sur le plan européen. Nous, on sait que c'est très difficile d'avoir accès finalement à des chiffres sur la santé mentale étudiante au niveau européen. On essaye là pour le moment de travailler à Nightline à regrouper, si vous voulez, toutes ces données, notamment en faisant appel aux autres Nightline d'autres pays, parce qu'il y a Nightline en France, il y a Nightline aussi en Belgique, en Autriche, en Suisse, au Royaume-Uni. Donc là, on essaye de travailler sur ce projet de Nightline Europe, aussi pour pouvoir partager avec les autres Nightline d'autres pays leurs pratiques, échanger autour des projets qui ont été mis en place. Nous, on a la chance en France d'avoir ce service d'écoute et en plus de ça, de proposer d'autres projets, vraiment d'élargir notre champ d'action pour pouvoir répondre de la manière la plus efficace possible aux étudiants, notamment en proposant des outils qui sont accessibles sur Internet, en faisant des campagnes de communication sur les réseaux sociaux. Et donc, vraiment, l'idée, à travers ce Nightline Europe, c'est de pouvoir généraliser ces pratiques-là et aussi d'avoir un poids supplémentaire auprès des instances européennes, comme par exemple la Commission européenne, et de pouvoir porter des projets pour les étudiants, à la fois sur le plan national et sur le plan européen.
Finalement, on souhaitait avoir votre point de vue, donc vous, en tant qu'enseignante-chercheuse à Nantes Université, Mme Kindelberger, et vous, Louis Soutrel, en tant que membre de Nightline, c'est-à-dire que votre point de vue, en fait, sur... la réussite de l'offre actuelle des soins en santé mentale, et finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas des améliorations envisageables, tant en termes de prévention que de prise en charge? Et est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres pays? Quand je dis de prévention, c'est-à-dire que, par exemple, nous, à la fac, avant de faire cette radio, on ne connaissait pas forcément l'existence de Nightline, et pourtant, il y a des panneaux de prévention à la fac, mais ce n'est pas quelque chose qui est très connu par les étudiants, pas forcément.
Oui, on essaye de vraiment de partir déjà des besoins du terrain en allant au contact un maximum des étudiants, en essayant de voir avec eux justement là où se situent leurs besoins. Et donc, on a recruté des volontaires en service civique qui interviennent dans les différents campus et universités de la région. Et on essaie effectivement de diversifier aussi nos moyens de communication, le faire à travers la radio comme on fait aujourd'hui, le faire aussi à travers des affiches, par des mailings qui sont reliés souvent par les universités, qui sont nos partenaires. Et donc, à travers cette communication, bon là, en l'occurrence, dans la région Pays de la Loire, on a ouvert il y a à peine un an. Donc, les choses sont en train de se mettre en place. C'est vrai que l'association, elle, a été créée en 2016. Et on voit que de plus en plus d'étudiants, en fait, nous contactent, du fait, sans doute, qu'ils apprennent à nous connaître et à savoir ce qu'on propose, mais aussi parce qu'il y a un besoin qui est présent. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les moyens de prévention, pour vous donner un exemple concret, je me rappelle d'un plaidoyer qui a été publié par Nightline en 2020, qui avait comme titre « En parler, mais à qui ?» et en fait qui faisait un état des lieux de ce qui était proposé en France pour les étudiants et notamment dans les services de santé universitaire, et qui disait qu'en France, alors que les recommandations internationales sont d'un psychologue pour 1500 étudiants, on était à un psychologue pour 30 000 étudiants. Et à la suite de la publication de ce plaidoyer, il y a eu le recrutement de 80 psychologues en France dans les services de santé universitaire. Et donc là, on est descendu à un psychologue pour 15 000 étudiants. C'est mieux, mais bien évidemment pas assez. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est très régulièrement de voir ce que propose le gouvernement, de voir les impacts que ça a et proposer aussi des améliorations.
Pour compléter un petit peu, hein, je pense qu'il y a actuellement maintenant une volonté politique beaucoup plus affichée hein, au niveau national et au niveau européen, notamment donc avec cette création d'une sorte de consortium hein, donc qualifié de Uniwell, qui était de cette université au départ, puis qui intègre au fur et à mesure encore plus d'universités. Donc je pense qu'au niveau de Nantes Université, alors certes le service de santé mentale, il existe depuis un bout de temps. La limite qui vient d'être rappelée sur effectivement le faible taux de psychologues pour les étudiants est importante. C'est sûr que si tous les étudiants qui vont mal, et ils sont assez nombreux effectivement, vont consulter le service de psychologie de l'université de Nantes Université, ça va être assez compliqué pour le soin. Après, enfin, je pense qu'on peut aussi raisonner peut-être, enfin, il y a pas mal de choses à faire en tout cas, ça c'est une certitude. Je pense que Nantes Université est en train justement par cette participation à Uniwell, hein, de prendre ça en charge aussi. Donc je pense qu'on est tous d'accord sur les constats, je pense que sur les facteurs, on voit bien un petit peu ce qui peut être aussi envisagé. Et je pense qu'on peut peut-être envisager aussi de raisonner à deux niveaux, c'est-à-dire qu'on a vraiment le niveau pathologique où il y a vraiment présence de troubles intériorisés, ça se mesure, ça se diagnostique entre guillemets, et ça nécessite un suivi, effectivement. Puis je pense qu'on peut aussi travailler un petit peu au niveau subpathologique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans le trouble, mais on commence à avoir certains symptômes, justement, anxieux, dépressifs. Et je pense que Nightline intervient aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que sur de la prévention, et justement en tentant de favoriser du mieux-être chez les étudiants pour éviter qu'ils tombent dans la pathologie, donc avec des actions de prévention, une meilleure connaissance des structures, éventuellement effectivement le développement de certains clubs, voilà, peut-être plus de mise en lien. Ce dont se plaignent pas mal d'étudiants, c'est aussi de se sentir quelquefois très isolés, notamment quand ils ne sont pas nantais, qu'ils arrivent à Nantes, qu'ils ne connaissent personne et que qu'ils sont un petit peu tout seuls sur les campus. On a retrouvé dans notre étude aussi le fait que le bien-être est plus faible chez les étudiants de première année, par exemple. Donc, ce qui laisse entendre qu'effectivement, il y a cette question un petit peu autour de l'isolement qui mérite d'être pris en charge, entre guillemets, pas dans une sorte de prise en charge psychologique, mais bien d'être accompagné pour permettre aux étudiants de mieux s'insérer dans ce monde étudiant, on pourrait dire, par des clubs, du sport, d'autres systèmes associatifs, en fait, pour qui s'insèrent et qui développent des relations avec les autres.
Et donc, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on a pu retrouver dans d'autres universités européennes lorsque vous avez fait votre recherche, des services comme ça de clubs.
Alors c'est quelque chose qui est promu par d'autres universités hein, où ils vont effectivement beaucoup miser sur la question des clubs avec en fait ils misent alors la question du sport, je pense que c'est quelque chose qui ressort très souvent, mais pas uniquement, il y a aussi des clubs en fait pour favoriser aussi une rencontre entre étudiants, on va dire, par rapport à leurs intérêts. Donc ça va être des clubs musicaux, des clubs d'écriture. Voilà, enfin on peut imaginer un petit peu toutes les pratiques artistiques et sportives, même des clubs de... Enfin, je pense à Nantes, on a aussi un chouette club, entre guillemets, fait aussi pour les étudiants étrangers. On en a un certain nombre et ils vont pas non plus spécialement bien pour les mêmes raisons, hein, parce qu'ils se retrouvent un petit peu tout seuls ici. Donc ils sont peut-être mieux ciblés et c'est une question aussi... Enfin, c'est une chouette association autour des échanges culturels, en fait, avec la cuisine, la langue, enfin, et donc ils sont motivés pour partager leur culture avec d'autres étudiants d'autres cultures, mais l'idée c'est aussi de favoriser du lien social. Il y a effectivement déjà pas mal de choses qui existent, mais qui sont très mal connues, comme la Nightline, effectivement, qui méritent d'être mieux identifiées pour les étudiants, et après on pourrait encore imaginer d'autres choses, mais je pense que déjà mieux faire connaître ce qui existe serait une bonne chose.
Merci à vous. Eh bien, ainsi s'achève cet épisode d'Enquête d'Europe. Nous espérons avoir pu éclaircir la complexe réalité de la santé mentale étudiante et de sa prise en charge. Nous remercions de nouveau Madame Cécile Kindelberger, enseignante-chercheuse en psychologie à Nantes Université, et Monsieur Louis Soutrel, membre de l'association Nightline, pour leur participation et la pertinence des éléments apportés. Merci pour votre écoute.
Merci, au revoir.
C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master de Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.